Jeannine Gerson publie Le rendez-vous de Samarcande. Elle est notre invitée.
Elle nous avait bouleversé il y a 3 ans avec Bella, un itinéraire mémoriel qui faisait référence à sa famille, à son histoire personnelle et aussi à la situation des Juifs de Thessalonique. Et puis cette année, elle revient avec un magnifique roman, Le rendez-vous de Samarcande. Bonjour Jeannine Gerson.
Bonjour François.
C'est paru chez Edilivre, faut-il le souligner, et puis on va le dire tout de suite. Samedi, vous êtes en dédicace à la librairie Le Poivre d'Âne à Manosque. Vous allez dédicacer Le rendez-vous de Samarcande. Nous allons passer quelques minutes à parler de cet ouvrage, ce dernier ouvrage qui fait référence d'abord à la légende de Samarcande.
En effet, vous la connaissiez cette légende ?
Honnêtement, non. Je l'ai apprise, elle est magnifique.
C'est une légende en fait tirée des Mille et une nuits, je crois. Hein. Et je peux vous la raconter ?
Bien sûr.
Alors, je peux vous lire un petit peu le texte. C'est un vizir qui rencontre un jour la mort derrière un buisson et qui vient voir son calife et qui lui dit « j'ai peur, j'ai croisé la mort ce matin et permettez-moi de partir, de seller mon cheval le plus rapide pour partir le plus loin possible. Où est-ce le plus loin possible ?»« Le plus loin possible, c'est Samarcande, lui dit le calife. Mais bon, vas-y. » Et il part. Et dans l'après-midi, le calife se promène dans ses jardins et voit la mort. Il lui dit « Mais pourquoi as-tu effrayé mon jeune vizir ? Il est jeune, en bonne santé, et il a eu très peur de te voir. Tu lui as fait un geste qui l'a effrayé. » Et la mort lui répond « Je ne voulais pas l'effrayer, j'étais simplement étonné de le voir ce matin ici, car je l'attends ce soir à Samarcande. »
Voilà, il faudra lire entre les lignes, évidemment, vous l'avez compris. C'est une histoire du destin, en quelque sorte, et ce qui nous attend parfois. Et ce destin, c'est aussi l'un des objets de votre livre, puisque on va suivre une femme qui est sur un lit d'hôpital et qui va nous raconter un petit peu sa vie. On dit très souvent que dans les derniers instants de sa vie, on revoit le film de sa vie. C'est un peu le cas de cette Véronique Sander, et qui a eu le malheur. Et là, on est dans la réalité, puisque c'est à la fois fiction et réalité. Elle a eu le malheur de se trouver dans un musée à Amsterdam, alors qu'un fou venait commettre un attentat, et elle est victime de ce fou. Ça, c'est une histoire réelle, Jeannine.
Alors, en effet, moi, j'ai été bouleversée par l'histoire d'une femme qui avait quitté la France parce qu'elle s'y sentait en insécurité, et qui, effectivement, a été victime d'un attentat terroriste. Et ça m'a fait penser effectivement à la légende de Samarcande. Et je me suis dit que son destin était-il écrit d'avance ? Pouvait-on l'influencer ? Alors, comme moi je suis optimiste, je pense qu'on peut influencer son destin et qu'on peut jouer avec sa vie. Mais
et ne pas aller jusqu'à Samarcande, par exemple.
On n'est pas obligé, puisque justement, il y a une version plus optimiste de la légende qui dit que le jeune vizir, quand il était en chemin sur son cheval, se dit « finalement, c'est idiot d'aller si loin, je rebrousse chemin et je rentre à la maison ». Donc il aura la vie sauve, celui-là.
Pour revenir à la réalité, cet attentat, c'était le musée de Anne Frank à Amsterdam, c'est ça ?
Voilà.
Et c'est un terroriste, c'est Mehdi Nemmouche qui a fait cet attentat de manière très réelle en plus. Je lirai tout à l'heure un extrait de votre livre parce que vous entrez vraiment dans la personnalité du terroriste et c'est assez glaçant comme histoire. La réalité, elle est encore plus glaçante que les écrits, bien sûr. Mais on va suivre cette femme qui aura une vie particulière. Si elle a voulu travailler au musée Anne Frank, c'est qu'elle a senti qu'il fallait résister à l'antisémitisme, et elle en souffre depuis plusieurs années, et la situation s'est dégradée en Europe depuis, après la Shoah bien sûr, et avec certains attentats, notamment en France. On a référence dans votre livre à les attentats de Mohamed Merah par exemple, là aussi glaçant, avec des écrits qui font froid dans le dos et qui sont, je le répète aussi, certainement moins glaçants que la réalité en plus, ce qui est terrible. Un pistolet qui s'enraye, mais on change le pistolet, mais on ne change pas de cible. Et quand la cible, c'est une fillette, ça devient dramatique, c'est vraiment, vraiment terrible. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, Jeannine ?
Je crois que je me suis inspirée de la fable du petit colibri de Pierre Rabhi, où j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé en France et de tous ces attentats antisémites, Copernic, Goldenberg, l'assassinat de Ilan Halimi. Tous ces attentats m'ont évidemment meurtri, mais je me suis dit que ma façon à moi, c'était de témoigner. Et j'ai pensé à cette fable amérindienne du petit colibri que je peux vous lire parce que je l'aime beaucoup et je trouve que c'est une façon justement de faire sa part. Quand tous les c'est l'histoire d'un immense incendie qui ravage une forêt. Alors que tous les animaux sont terrifiés et assistent impuissants au désastre, seul un petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, se moque du petit colibri en lui disant que ce ne sont pas ces quelques gouttes d'eau qui éteindront le feu. Mais le colibri a cette réponse superbe que j'ai adoptée tout au long de ma vie. Je le sais, mais je fais ma part.
Faire sa part, c'est une belle expression, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'on salue nos amis qui militent pour la décroissance, pour une agriculture respectueuse du sol, etc., etc., et qui sont dans ce mouvement qui s'appelle les colibris.
Oui.
Janine, c'est évidemment l'antisémitisme qui est au centre de votre livre, et c'est en même temps la situation de cette femme qui a reçu une balle, qui est dans le coma, et qui va sentir autour d'elle tout un cheminement. Il y a les infirmières qui s'affairent autour d'elle, pensant que peut-être on ne les entend pas, alors que la patiente, elle est entièrement consciente. Elle est sur son lit d'hôpital, elle revoit sa vie, on rentre avec elle dans sa vie, mais en même temps, elle sent les parfums des infirmières qui sont à côté, elle écoute les sons des médecins, etc., et elle est incapable de s'exprimer. Peut-être que je me trompe dans mon interprétation aussi. Vous avez vécu ce type de situation vous-même ?
Pas du tout. Pas du tout, mais j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet. J'ai lu « Les choses de la vie » de Paul Guimard, où il est dans le coma et il revoit sa vie. J'ai lu « La traversée » de Philippe Labreau, où il est également dans le coma. Et je pense que c'est un état qui m'a toujours fasciné. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fait réel qui a servi de point de départ probablement pour votre livre, probablement, c'est même sûr. Mais bien sûr, vous avez développé tout un côté fictionnel sur tout ce qui est cette vie passée. Et évidemment, dans la vie passée, on va croiser beaucoup beaucoup de personnages, alors que ce soit des hommes, des femmes, des collègues de travail, toute une vie un petit peu à la fois dissolue et en même temps très réaliste. C'est une vie pratiquement banale et quelconque.
C'est une enseignante, elle aime son métier, elle aime Paris, elle aime la vie, elle aime la culture, elle a des amis, elle se marie, elle divorce, elle a des amants, elle a des souvenirs. C'est une vie banale, comme vous le dites, oui.
Et en même temps, elle est marquée par le fait qu'elle appartienne à une communauté particulière et elle sent qu'il y a une dégradation de la situation autour d'elle. Avec des moments de plus en plus difficiles, avec des juifs de France qui disent « on va partir en Israël, on ne peut plus rester ici ». Elle essaie de résister aussi à ça.
Et je crois que l'effet déclencheur pour elle, c'est effectivement la tuerie de Toulouse, où là, elle se rend compte que les attentats ont atteint un certain niveau d'antisémitisme, et elle se dit « mais ça n'est plus la France que j'aime, ça n'est plus la France que je connaissais, et je ne me reconnais plus ici, qu'est-ce que je vais faire ?» Et elle n'a pas envie de partir en Israël, elle se dit « partir, oui, mais partir où ?» Et il se trouve qu'elle connaît des amis à Amsterdam, qu'on lui a dit c'est un havre de paix. Elle a entendu parler du musée d'Anne Frank, donc elle se dit qu'elle va être bénévole parce que là encore elle veut faire sa part.
Et tout ça va être filmé par la caméra de surveillance du musée. On connaît ces images qui sont hélas réelles de cet attentat. On vit dans une ambiance assez particulière depuis quelques mois, je ne vais pas vous l'apprendre. Votre livre d'ailleurs se termine sur un certain 11 janvier 2015 avec beaucoup d'émotions et en même temps toute une confiance dans l'avenir, confiance qui a été un petit peu chamboulée par le 13 novembre, puis le 22 mars, je fais référence à Paris et puis à Bruxelles, bien sûr, mais n'oublions pas non plus les attentats meurtriers dans d'autres pays du monde qui sont hélas choses courantes et fréquentes, qui nous frappent beaucoup moins nous en tant qu'occidentaux. Le monde est en pleine déliquescence actuellement. Et cette déliquescence ne touche pas uniquement la communauté juive.
Tout à fait. C'est le terrorisme qui s'attaque à nous tous, à l'Occident, à nos valeurs, à nos musiques. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la préface de ce livre a été écrite par Guillaume de Saint-Marc, qui est président de l'Association française des victimes du terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai décidé hier, je l'ai eu hier au téléphone, de lui reverser une partie de mes droits d'auteur au profit de l'Association française des victimes du terrorisme, parce que c'est une association qui soutient les victimes, qui les aide dans toutes ces démarches, leurs démarches, et qui a leur apporte un soutien psychologique. Donc je remercie beaucoup Guillaume qui m'a écrit une très belle préface, et si vous voulez bien, je voudrais vous lire le dernier paragraphe. Je rêverais que le rendez-vous de Samarcande soit utilisé par des éducateurs pour faire réfléchir les adolescents sur le terrorisme et toute forme d'extrémisme violent, mais aussi pour leur rappeler les principes de citoyenneté et de tolérance que nous devons tous défendre, pas à pas, contre l'obscurantisme et la haine. Car vous le voyez, dans ces paroles, il n'y a pas de haine.
Oui, et quelques très belles lignes, en même temps c'est une belle attitude, et puis la vôtre aussi à saluer, Jeannine, de dire tiens, on va donner, je peux donner moi de mon côté un petit peu d'argent à cette association pour soulager la peine immense que doivent avoir les victimes du terrorisme, soit frappées dans leur cœur, soit frappées dans leur famille, dans leur chair, et en même temps, vous de votre côté, vous avez écrit dans votre livre, et je le mettrai un petit peu en pendant à ce que vient de dire Guillaume Demare, quelque chose de terrible. Vous vous êtes transporté dans la tête d'un terroriste, exercice difficile, et en même temps où il faut faire preuve de lucidité, de froideur, et avec le style littéraire qui est le vôtre et que j'avais déjà beaucoup apprécié avec Béla. Si vous permettez, à mon tour, je vais lire un extrait de ce que vous écrivez. L'homme a repéré les lieux quelques jours avant la date qu'il avait choisie. Il a vérifié que la salle de spectacle n'était pas protégée, que la circulation était en général fluide, que peu de voitures y stationnaient et que le quartier était calme. Et puis un peu plus loin, il a tout vérifié méticuleusement. Il a choisi des chaussures souples et confortables pour pouvoir courir en cas de besoin. Il a acheté un sac de sport anonyme, sans publicité agressive, sans marque reconnaissable. Il a cherché une casquette à large visière pour dissimuler suffisamment son visage. Il a vérifié 100 fois le mécanisme du revolver, de la Kalachnikov et de la caméra, car il veut filmer son acte. Encore un peu plus loin, alors là on rentre dans le vif de l'action, la porte du théâtre est ouverte. Depuis la rue, il sort son revolver et tire sur un couple de touristes qui lui tournent le dos. Ils sont plongés dans la lecture d'un document, ils auront un geste pour s'enlacer avant de tomber inertes et ensanglantés. Il range l'arme et sort la Kalachnikov de son sac de sport pour pénétrer dans le hall d'accueil. Au comptoir, un jeune homme est là, debout, interloqué, apeuré, qui ne comprend pas ce qui arrive. Il vient de prendre son service car il a encore une tasse de café à la main, mais très vite, il comprend le drame et hurle d'effroi. C'est à ce moment que le tueur l'assassine froidement, seulement contrarié par sa caméra qui ne fonctionne pas. Un peu en retrait, une dame attend, debout. Elle a les yeux clairs et semble assez âgée. Elle essaie de se cacher en se glissant sous un bureau, mais l'homme prend appui sur le comptoir pour mieux l'atteindre et ne lui laisser aucune chance. Elle glissera par terre, doucement touchée à la tête. C'est écrit froidement, ça aussi, Jeannine.
C'est
écrit froidement.
Froidement, oui. Je vais essayer de me mettre dans la peau de ce tueur. Mais en réponse, moi, je voudrais évoquer Elie Wiesel, qui, lui, a écrit un très, très beau texte après la tuerie de Toulouse et qui est pour moi le message que je veux transmettre. Je me fais un vœu. La prochaine fois en France, je viendrai visiter Toulouse et j'irai à l'école orpheline. Je rencontrerai les enfants, je les embrasserai comme un frère aîné venu de loin. Et assis au milieu d'eux, j'étudierai avec eux, en reprenant le texte que les assassins avaient interrompu, pensant que c'est pour toujours. Et comme toujours, ils se sont trompés. Et tu vois, je crois que pour moi, ce message, c'est celui que je veux transmettre, parce que quoi qu'ils fassent, les terroristes ne gagneront pas, parce que nous avons, nous, l'envie de vivre, d'écouter de la musique, de boire, de se marier, d'avoir des enfants, et nous voulons continuer à vivre et à résister.
C'est d'ailleurs une des scènes de votre livre qu'on pourrait imaginer sur un grand écran. C'est le soir du procès d'Ilan Halimi. Je vous rappelle, hein, le gang des barbares, enfin ces monstres qui ont tué dans des conditions abominables un jeune homme. Et ce soir-là, Véronique, donc l'héroïne, Véronique Sander, va faire la fête.
Elle va à un mariage et effectivement, son seul moyen de résister, comme je le disais, c'est de faire la fête, de boire, de danser, de chanter, de rire, parce qu'elle va à un mariage et que le mariage, c'est un signe d'espoir.
De s'étourdir par la résistance, c'est magnifique aussi ça, c'est une belle chose. C'est votre roman, donc le rendez-vous de Samarcand, qu'on peut trouver un petit peu partout, je suppose,
tout à fait.
En tout cas que vous dédicacerez ce samedi à la librairie Le Poivre d'Âne à Manosque. Je pense que pas mal de lecteurs et de lectrices viendront vous voir et viendront parler avec vous de ce deuxième épisode littéraire dans votre vie, c'est ça ?
Exactement.
Hein ? Et par rapport à Bella, c'est un palier supplémentaire que vous avez franchi, Janine ?
Oui, parce que là, j'ai écrit un vrai roman. Même si c'est inspiré d'une histoire réelle, c'est quand même un roman, effectivement.
Et il y a de très belles choses, il y a notamment des rapports de cette vie de Véronique qu'on suit pas à pas avec des collègues de travail qui discutent dans une salle de prof. Apparemment une discussion anodine, mais qui n'est pas si anodine que ça, où on sent la progression de certaines idées, si vous voyez ce que je veux dire,
oui.
Et qui fait que l'enseignante est un peu sur sa réserve à un moment, elle est amie aussi avec une autre enseignante, et là ça se terminera mal aussi pour elle, alors qu'on pensait que c'était quelqu'un de très solide, et non, il y a des fragilités partout, même dans les milieux d'éducateurs et des enseignants. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça dans votre livre qui sont très touchantes et en même temps qui permettent de réfléchir un petit peu. Vous avez d'ailleurs reçu un mail dernièrement d'une personne qui vous a remercié, Janine.
Oui, elle m'a dit que j'étais un petit colibri, moi aussi.
C'est bien.
Ça m'a touché.
Je peux être aussi de mon côté un petit colibri, puis que chacun fasse sa part dans notre société. On virera ces salopards un jour ou l'autre. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Merci beaucoup, Janine.
Merci.
À bientôt.
À très bientôt.